Voix nue. Cette semaine, Charlotte Bien-Aimée rencontre Christine Delphi. Ce soir, sexe et pouvoir.
Bonsoir Christine Delphi.
Bonsoir.
Vous êtes militante féministe, historique, chercheuse en études de genre. Vous nous avez raconté votre prise de conscience féministe, vos luttes dans les années 70 et la création du mouvement de libération des femmes. Nous avons aussi abordé ensemble les concepts de genre que vous avez contribué à forger et celui du mode de production domestique qui constitue la base économique du patriarcat. Aujourd'hui, j'aimerais que nous revenions sur vos engagements au sein de grands débats féministes, notamment contre les violences sexuelles. Donc, cette forme d'oppression que vous abordez, vous décryptez dans de nombreux articles théoriques et politiques, parce que justement, c'est un aspect central dans votre parcours, c'est le rapport entre théorie et politique, recherche et militantisme. Pour vous, les deux sont nécessairement liés, Christine Delphi?
Oui, ça, je pense que je l'ai expliqué dans l'article qui s'appelle « Pour un féminisme matérialiste ». C'est-à-dire que je vois les théories comme découlant d'une situation politique et plus précisément de luttes de classe. Et luttes de classe qui ne sont pas réservées à la lutte contre l'oppression et l'exploitation capitaliste. C'est-à-dire, c'est la lutte entre deux groupes privilégiés, le groupe exploiteur et le groupe exploité. Et que sans ça, il n'y a pas de théorie. En tous les cas, de théorie sociale qui vaille le coup. Et là, je critique dans cet article beaucoup le fait que les choses soient abordées par différentes disciplines, qui chacune prennent leurs lunettes et finalement ne voient pas l'oppression, en particulier l'oppression des femmes.
Finalement, la théorie découle de la pratique et la pratique se nourrit de la théorie?
Absolument. Le besoin d'avoir une théorie implique qu'il y a une révolte. Sinon, il n'y a pas d'effort théorique.
Et ce qui vous a été souvent reproché, et ce qu'on reproche souvent aux chercheuses féministes, c'est le fait justement d'être trop engagée, d'être impartiale, de ne pas être neutre parce que trop concernée. Ça, vous en avez beaucoup parlé aussi dans vos textes.
Oui, c'est une position absurde. C'est la position des gens qui se veulent neutres, impartiaux, etc. Et qu'on retrouve quand même chez des auteurs comme Bourdieu qui prétend être au-dessus de la mêlée. Alors qu'en fait, c'était un homme et il a écrit comme un homme sur les femmes, en voyant certaines choses et en voyant pas d'autres. Par exemple, il ne parlait que de la violence symbolique. Il ignorait complètement les violences réelles, les violences physiques, les violences psychologiques et physiques subies par les femmes. Bourdieu prétend avoir une vision impartiale, pouvoir être objectif. On ne peut pas être objectif, parce que être objectif, ça correspond, enfin, qu'est-ce que c'est que cette vue d'en dessus, de par-dessus, de quiconque? Tout le monde est inséré dans la structure sociale. On est inséré d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, il revendique d'avoir une espèce de regard de Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu qui soit au-dessus de la mêlée. Mais aucun de nous... Que ce soit vous, moi ou Bourdieu, on est au-dessus de la mêlée. On est dans la mêlée.
J'aimerais qu'on revienne ensemble sur deux engagements importants dans votre parcours militant et de lutte à 30 ans d'écart. Le premier, c'est en 1976, où vous avez été active dans la campagne contre le viol, qui s'opposait notamment au fait que les tribunaux déqualifient le viol de crime passible d'assises en délit passible de correctionnel. Est-ce que vous pouvez me raconter cette lutte-là? Comment vous y êtes engagée? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous?
Oui, c'est-à-dire on a fait une grande réunion et bon, nous on avait pondu un manifeste en disant que oui, c'était insupportable la façon dont le viol était traité. Le viol qui était dans les lois un crime mais qui était correctionnalisé. Vous savez, ça se passe toujours. Ça se passe toujours, hein. Le viol est correctionnalisé très souvent. Et quand vous voyez des articles faits par des femmes qui sont dans des groupes ou qui sont des avocates, etc., vous vous apercevez que c'est considéré comme un crime mineur. Et d'ailleurs, dans la réforme de la justice que veut faire ce gouvernement-ci, eh ben, il y aurait des tribunaux spéciaux pour traiter des crimes mineurs, c'est-à-dire ceux qui sont passibles seulement de 15 à 20 ans de prison par rapport aux crimes majeurs. Donc on aurait une double justice. Et donc ça serait une espèce de correctionnalisation, mais automatique, du viol et des agressions sexuelles et de tout ça.
C'était quand même une campagne très importante, la campagne contre le viol en 76. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez raconter un peu cette lutte?
Ben, je ne me rends pas vraiment compte, parce que ça a été une espèce d'explosion qui a été d'ailleurs très mal vécue par les journaux de gauche, hein, qui expliquaient plutôt que que le viol, c'était pas grave, hein. À ce moment-là, par exemple, Guy Ockenghem écrivait dans Libération. Alors, c'était la thèse de la frustration sexuelle des hommes, et en particulier des hommes immigrés, quoi. Ils en étaient réduits à faire ça, et ils en étaient amenés à violer parce que ils n'avaient pas d'autre façon de satisfaire leurs besoins sexuels. Et ça, vous remarquerez que c'est quand même un truc qu'on voit assez fort. Alors, pas d'une façon aussi générale, mais par le fait que beaucoup de violeurs disent, si jamais ils sont pris, qu'ils ont eu des pulsions. Ils ont eu une pulsion. C'est assez extraordinaire, parce que jamais, pour les femmes, on ne parle de pulsions. Elles n'ont pas de pulsions qui les poussent à commettre des crimes, mais heureusement. Donc, c'était la vision, disons, dominante. Même Sartre disait que les hommes sont des violeurs. Il ne l'excusait pas. Comme Guy Ockenghem, qui disait que c'était juste un petit bout de chair. Il paraît qu'il a changé d'avis après qu'il a été violé lui-même. Mais par ça, bon, c'est pas très grave, c'est même pas grave du tout, parce que ça vient d'une grande frustration de la part des hommes, et des hommes en général, voilà. J'avais écrit un article, on était un petit groupe à ce moment-là, mais que c'était absurde, et qu'un crime devait être jugé comme un crime. Mais ça n'a pas eu beaucoup de débouchés, hein. Parce qu'en fait, le premier violeur qui a été jugé en cour d'assises, il se trouvait que c'était justement un immigré. Alors lui, il a eu la totale, il a eu 20 ans. Mais c'était vraiment pour faire un geste, et une des avocates s'est mise à pleurer en plein tribunal. Bon, elle estimait avoir été trop loin, elle ne voulait pas être embarquée dans ce truc-là.
Mais ça a été un débat important dans le mouvement féministe, ça aussi. Est-ce qu'on doit participer à une justice qui est patriarcale et
de classe?
De classe, oui. Et
bon, il y avait un groupe qui faisait partie de la tendance lutte de classe et qui amenait cet argument-là, mais c'était un groupe minoritaire. Et puis il y a aussi le groupe d'Antoinette Fouque qui disait qu'il y avait beaucoup de viols, par exemple, on est violé quand on écrit quelque chose, enfin bref, c'est-à-dire qu'il utilisait le viol comme une métaphore. Bon. Mais c'était pas la vue prédominante. Enfin, disons qu'on a amorcé un débat contre le viol, mais pas contre les violences sexuelles. Donc ça a attendu encore longtemps. Mais bon, c'est un pas après l'autre, hein. Ça a mis 15 ans à infuser un peu dans la société, dans la conscience des féministes. Ça met assez longtemps à se transformer.
Alors justement, vous remobilisez cette question en 2011, en réaction à l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn pour viol, et surtout en réaction au traitement politique et médiatique de cette affaire. Suite aux nombreuses réactions de soutien à Dominique Strauss-Kahn, vous publiez un livre, un recueil en fait, de textes de militantes et de chercheuses, qui s'appelle « Un troussage de domestiques » et qui reprend l'expression d'un journaliste, Jean-François Kahn, qui avait pris la défense de Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui vous a été surpris, étonné à ce moment-là dans les réactions du milieu politico-médiatique?
Ce qu'on a vu, c'est leur grande défense justement de leur propre milieu et de privilèges masculins, mais de privilèges masculins réservés à l'élite. Parce que dire que Strauss-Kahn était un séducteur et non pas un violeur, jamais on ne parlerait d'un homme racisé comme étant un séducteur, hein. Si jamais il est pris, De toute façon, il y a encore beaucoup de problèmes avec les tribunaux pour arracher une inculpation de viol. Mais si jamais il est pris, on ne dira pas que c'est un grand séducteur. Hein. Donc pour Dominique Strauss-Kahn, c'est l'inverse. Il avait vraiment droit à un traitement de faveur et à faire ce qu'il voulait. Et puis maintenant, vous voyez bien qu'il n'est pas discrédité sur la scène médiatique, peut-être en France, mais ailleurs, il va faire des conférences dans le monde entier, et il n'a fait aucune prison. Et tout le monde parlait à ce moment-là de l'accusatrice de Strauss-Kahn, mais elle n'était pas l'accusatrice. Et moi, je vois partout, par exemple, là, à propos de certaines femmes qui ont témoigné dans des procès suivant MeToo, qu'on parle d'accusatrice. Mais c'est un terme ridicule, ça n'existe pas dans le droit. Il n'y a pas d'accusatrice. Il y a des plaignantes ou des plaignants. Mais il n'y a pas d'accusatrice. Donc c'est un terme très péjoratif.
Qu'est-ce que ça a révélé pour vous, cette affaire? Qu'est-ce que ça disait de...
Ça a révélé d'une part le fait que tout le monde en France le défendait. Il n'y avait que des féministes qui l'attaquaient. C'est pour ça que j'ai recueilli la plupart de leurs articles dans ce petit livre, parce qu'elles disaient la même chose. Et c'était très intéressant qu'elles disent la même chose.
Elles disaient quoi?
Elles disaient, oui, c'est écœurant et puis c'est raciste, oui. C'est raciste dans le sens que, on ne veut pas accepter que des hommes d'un rang aussi élevé que Strauss-Kahn puissent être accusés d'un crime.
Justement, vous disiez tout à l'heure qu'on avance pas à pas. Cette affaire, donc en 2011, c'est quand même 30 ans après vos engagements en 75 sur le viol. Est-ce que vous avez été étonnée de là où on en était encore à ce moment-là et de la...
Mais je suis toujours étonnée par mon pays, qui fait tout ce qu'il peut pour rester à la traîne de tous les autres pays. Enfin, de tous les autres pays occidentaux. C'est ahurissant. Ahurissant. Par rapport à l'Angleterre, par rapport aux pays nordiques, par rapport à l'Espagne, il y a eu des manifestations monstres parce que une jeune fille qui a été violée par 4 mecs à la foire de Pamplune. Les types ont été condamnés, mais c'est pas quoi, quelque chose de sexuel aussi, agression sexuelle, alors que les juges ont énoncé des raisons qui montraient clairement qu'elle n'était pas en possession de ses moyens, ni en possession de se défendre. Et puis il y avait un juge qui avait dit que c'était non, qu'elle paraissait y avoir du plaisir. Et alors, il y a eu des manifestations monstres en Espagne. Dans chaque ville, je sais pas, à Madrid, il y a eu presque 1 million de personnes, y compris des hommes. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en Espagne, qu'on juge un pays un peu particulièrement machiste, il y a des jeunes hommes pour participer à ces manifestations. D'ailleurs, il va y avoir un changement de la loi, hein.
Et est-ce que l'affaire Strauss-Kahn, ça n'a pas aussi révélé une vision française des États-Unis, la critique toujours des États-Unis trop puritains?
Moi, ça fait des années que les hommes réac disent que le féminisme nous vient des États-Unis. Enfin, on est gagné par les valeurs puritaines des États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas plus puritains que n'importe quel autre pays. Et c'est une façon de se défendre. Dire que dénoncer le viol, c'est du puritanisme, c'est un peu fort, mais enfin, ça ne les gêne pas. Hein.
Vous êtes aussi très impliquée dans la lutte contre la prostitution. Vous avez une position abolitionniste. Christine Delphi, quelle est-elle?
Il y a 3 positions dans le monde. Abolitionniste, réglementariste et prohibitionniste. La position prohibitionniste fait qu'on peut s'attaquer aux prostituées elles-mêmes. C'était la position, c'est probablement encore la position de la Chine. La position réglementariste, c'est la position qui dit que ça doit être réglementé, alors que la réglementation de la prostitution, et donc l'instauration de bordels, a été abolie par la loi dite Marthe Richard en 1948. Et la position abolitionniste, c'est que la prostitution est un mal pour les prostituées, mais que elles doivent être libres de faire ce qu'elles veulent et donc d'être prostituées. La seule chose qui soit punie par cette loi, c'est le proxénétisme, c'est-à-dire de profiter de la prostitution d'autrui. Voilà, alors, pour revenir à moi, et moi je suis d'accord avec cette définition de la loi française, parce que c'est une vie qui implique ce que j'ai appelé des viols tarifés, d'une part, donc c'est pas quelque chose de souhaitable pour elles, pour celles qui sont prostituées, et que, en plus, ça dégrade la situation des femmes en général.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Ben parce que si certaines femmes sont accessibles à ce que certains hommes perçoivent comme leur désir ou leurs besoins, puisqu'on parle souvent des besoins sexuels des hommes, eh ben pourquoi pas toutes les femmes ? Pourquoi pas toutes les femmes ? Et d'ailleurs, elles sont souvent traitées comme ça. Hein, parce que il n'y a pas que dans la prostitution qu'on trouve des actes qui sont consentis par les femmes, mais qui ne sont pas désirés. C'est malheureusement le cas d'une grande partie des relations sexuelles.
Cette question divise profondément le mouvement féministe. Certaines féministes, contrairement à vous, veulent redéfinir la prostitution comme un travail, comme la vente de services sexuels. Pourquoi vous vous êtes fondamentalement opposée à cela ?
Ben pour sauver la sexualité, parce que ça interdit à ces femmes, et d'une certaine façon à toutes les femmes, d'avoir un épanouissement dans la sexualité. Parce que la sexualité rêvée, et que beaucoup de gens poursuivent d'ailleurs, c'est une sexualité où il y a deux personnes, et non pas une personne seule, qui se masturbe dans une autre, comme elle se masturberait dans sa propre main ou dans n'importe quel autre objet, et d'avoir un désir partagé et d'avoir un plaisir partagé aussi.
Pour certaines féministes, pour ces mêmes féministes dites pro-sexe, refuser la possibilité d'une professionnalisation de la prostitution ou de la pornographie, par exemple, ferait de la sexualité un domaine à part, un domaine mythifié. Qu'en pensez-vous ?
C'est peut-être un domaine mythifié, je ne sais pas ce que signifie exactement mythifié dans ce cas-là, mais c'est certain que un acte sexuel qui est désiré par les deux personnes dans cette relation, ça n'a rien à voir avec un viol tarifé ou non. C'est pas de la sexualité, à mon sens. Qu'est-ce que vous imaginez qui se passe dans la tête d'une jeune étudiante qui trouve que c'est plus facile de se prostituer que d'avoir un job à mi-temps ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Quelle idée elle a de la sexualité ? Elle a déjà une idée, mais complètement dégradée de la sexualité, et donc d'elle-même, pas seulement de son corps. On n'est pas un esprit à côté de son corps, hein. On est une seule personne. Hein. Quand vous dites, par exemple, j'ai mal aux pieds, vous dites « j'ai mal aux pieds », vous dites pas « mon pied a mal ». Donc ça veut dire que quelque part, elles ont abandonné l'idée de la sexualité. Abandonné l'idée du désir.
Votre position est aussi en opposition avec le mouvement queer qui propose de performer aussi les sexualités, performer des fantasmes de domination. Pour vous, c'est pas quelque chose qui peut faire évoluer justement se se réapproprier en fait.
Oui, ça va faire évoluer les choses, mais de mal en pire. Hein. Je voyais les résultats d'une enquête. De plus en plus de jeunes, très jeunes même, à partir de 11-12 ans, regardent des films porno sur Internet. Et en majorité, les filles sont choquées parce qu'elles voient, enfin, elles trouvent que c'est pas bien. Et les garçons, bon, ben, c'est leur idée de la sexualité. Donc, ils demandent à leurs petites amies, qui ont le même âge qu'eux, de faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, de leur faire ce qu'on appelle des gâteries, c'est-à-dire de leur demander des fellations et de subir des viols. Alors, je vois pas en quoi ça arrange les choses. Je veux dire, on a toujours cette idée. Au lieu de lutter pour une sexualité vraiment libre,
qu'est-ce que ce serait une sexualité vraiment libre?
Une sexualité vraiment libre, ça serait d'abord une sexualité qui ne soit pas un viol. Si vous voulez, les deux trucs vont se percuter. Hein. Parce que ces fantasmes de domination, c'est des fantasmes de viol qu'on voit dans les films porno. Et à côté de ça, on lutte contre le harcèlement sexuel et contre le viol. Alors, c'est pas très compatible. Hein.
Il y a toute une réflexion sur la question de consentement aussi. Il y a aussi ce travail-là, en fait, qui est à faire.
Ce qu'il faut demander maintenant, c'est qu'il y a un désir de la part des deux participants, quand c'est un couple hétérosexuel. Et d'ailleurs, même quand c'est pas un couple hétérosexuel.
Il faut dépasser la notion de consentement, alors, pour vous.
Bah, il faut aller un peu plus loin, oui. Il faut désirer activement quelque chose et non pas juste consentir. Parce que consentir, bah, vous retombez dans la justification de la prostitution. Hein.
Pourquoi?
Bah, parce que vous avez consenti contre de l'argent, vous avez consenti parce que vous ne vous sentez pas assez forte pour lutter contre le désir d'un homme, parce que vous pensez que les hommes ont toujours raison. C'est comme ça que les filles sont éduquées, hein. Les garçons sont vos supérieurs déjà, très tôt.
Un désir mutuel alors.
Un désir mutuel, ce qui ne me semble pas quand même exagéré comme revendication.
Avant de nous quitter, Christine Delphi, j'aimerais revenir avec vous sur l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Quel regard vous portez sur ce mouvement? Est-ce que cette fois-ci, on n'est plus dans l'époque Dominique Strauss-Kahn? Tout a changé?
C'est un moment très important parce que ce sont des femmes qui ne sont pas forcément dans des groupes féministes et qui dénoncent ces violences. C'est-à-dire que elles sont arrivées à un moment où elles ne considèrent plus que ces violences sont légitimes parce que les hommes sont comme ça et il faut bien vivre avec les hommes. Et donc, il faut qu'ils se conduisent autrement. Bon. Et elles disent très clairement ce qu'elles éprouvent. Des sentiments de d'humiliation et puis de... Moi, je me souviens quand j'étais étudiante et que je descendais le boulevard Saint-Michel pour rentrer chez moi, il y avait toujours un mec qui me suivait et qui me disait « Jean, mademoiselle, à 5 mètres derrière moi, etc. » Et je me disais « Mais comment est-ce que ces gens ont le droit de prendre ma tête ?» Parce qu'ils prenaient ma tête, hein. Ils me forçaient à penser à eux. Je n'osais rien dire. Bon, alors ils finissaient par se lasser de toute façon. Mais au bout de 2 ans, je me souviens que je me suis retournée vers un et je lui dis, écoutez, fichez-moi la paix. Mais je le dis sur un ton qui a fait qu'il s'est arrêté et il a arrêté de me suivre. Mais c'est vraiment une prise de possession de votre tête, hein, parce que vous étiez en train de penser à autre chose, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous interrompt. Et ce qui est terrible, c'est de voir que ces 100 soi-disant femmes, enfin, c'est pas des soi-disant femmes, c'est des femmes, mais ont trouvé qu'il y avait une liberté d'importuner. C'est-à-dire que...
Vous parlez de la tribune qui a été écrite.
Oui, la tribune écrite... suscité, écrite par Elisabeth Lévy et puis signée par 99 autres femmes, dont Catherine Deneuve. C'est donc que les femmes n'ont pas droit juste à leur corps, elles ont droit à leur espace mental aussi. Elles ont droit de réfléchir à quelque chose qui n'est pas le, n'importe quel mec qui se place derrière vous et qui vous dit « Bonjour mademoiselle, est-ce que vous voudriez aller prendre un pot avec moi ?» ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, ça vous occupe. Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui, même en France, commencent à comprendre ce que c'est que le harcèlement sexuel. Et qui le disent ou qui l'écrivent. Bon, donc, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de... Parce qu'il y a plusieurs attitudes. Il y a des gens qui disent, les hommes qui disent, ah, mais non, c'est pas du harcèlement, d'ailleurs j'ai le droit de le faire, c'est ridicule. Et d'autres qui disent, oui, ben, je me rendais même pas compte que j'étais un porc. Récemment, je crois que c'était dans Mediapart, il y avait des hommes qui écrivaient, qui disaient « Nous avons été des porcs ». Ils s'en rendaient compte. Je trouve que c'est formidable, le mouvement MeToo. Et son expression en France, parce que je crois qu'elle n'est pas terminée. Il n'y a pas autant de libération de la parole qu'on le voudrait, mais ça existe quand même. Et je pense que ça va, enfin j'espère que ça va, disons, s'aggraver, dans le sens qu'il y aura de plus en plus de dénonciations, et que c'est un grand pas pour des femmes qui n'étaient pas féministes au départ.
Vous avez l'impression que ça peut changer les choses pour le mouvement féministe aussi ?
Oui, parce que c'est pas le seul signe que le mouvement féministe recommence. Enfin, mais si on parlait de tous ces petits groupes qu'on voit qui sont dans des coins même souvent très reculés dans la France rurale, donc il y a un renouveau du féminisme et un renouveau qui est dû donc à la prolifération de ces petits groupes et aussi à l'entrée sur scène des féministes musulmanes et des afro-féministes. Ça, je trouve que c'est vraiment formidable.
C'est ce dont nous parlerons demain, Christine Delphi. Merci, Christine Delphi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Charlotte Bien-Aimée avec Christine Delphi. Réalisation Annabelle Brouard, prise de son Pierre Quintard, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.